Les mystères du Palais Royal. Première partie. Le diable. Chapitre 19. Le départ. Jacques, dit-il ensuite, va trouver Mademoiselle Jeanne et demande-lui de ma part une plume, de l'encre et du papier. Le valet obéit aussitôt et revint au bout d'une minute, apportant les objets que son maître avait désignés. Tu vas écrire sous ma dictée. Reprit le chevalier. Jacques se gratta l'oreille avec embarras. C'est que, dit-il, j'écris à peu près comme une mouche qui serait tombée dans une écritoire et qui se promènerait ensuite sur le papier. Peu importe, répliqua Raoul, pourvu qu'il soit possible de déchiffrer, cela suffit. D'ailleurs, ce que j'ai à te dicter est très court. Jacques se mit en devoir d'accomplir les ordres de son maître. Y es-tu ? Demanda Raoul. Oui, répondit le valet. Raoul dicta. Faites parvenir, dans le plus bref délai, à l'hôtel de la rue Saint-Dominique, une somme de 100 000 écus en or. La cassette qui contiendra cet or devra entrer dans Paris sous le couvert du Palais Royal. C'est tout ? C'est tout, dit Raoul. Pas de signature ? Demanda Jacques. Non, c'est inutile. Le régent t'a-t-il rendu la bague que tu lui avais fait passer ? Oui, la voici. Prends dans le coffret d'écaille un bâton de cire rouge et allume une des bougies qui sont sur la cheminée. Voilà qui est fait. Maintenant, applique sur cette cire le chaton de la bague au bas de la lettre, à la place de la signature. Jacques suivit littéralement les indications de Raoul. Plie cette lettre, continua ce dernier, et mets l'adresse suivante. À Monsieur George Wilson, gardien des ruines du château de la Baume, par Saint-Germain-en-Laye. Raoul examina cette souscription, fit sceller la lettre avec un cachet sans empreinte et ajouta. « Comment es-tu venu à Paris ?»« À cheval. Où est ton cheval ?»« À la porte, attaché par la bride à un anneau de fer. Reprends-le et cours au galop jusqu'à Saint-Germain, où tu mettras cette lettre à la poste. » Et ensuite ?» Ensuite, tu reviendras ici, j'ai besoin de toi. » Le valet sortit, et Jeanne, qui guettait la fin de l'entretien, rentra dans la salle basse au moment où Jacques la quittait. « Mon enfant bien-aimé, lui dit Raoul, parlons un peu de l'avenir. Voulez-vous me permettre de vous soumettre mes projets ?»« Vous savez bien, répondit Jeanne, que vos volontés seront les miennes, que vos désirs seront les miens. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. » fit le chevalier. « Je veux vous consulter en toutes choses, et je souhaite que vos réponses à mes demandes soient toujours l'expression véritable de vos pensées. »« J'agirai selon vos désirs, » murmura la jeune fille. « Eh bien, Jeanne, dites-moi d'abord, tenez-vous à cette maison. » « J'y ai passé les seuls jours heureux de ma vie, les jours de mon enfance. J'y ai grandi. Ma mère y est morte. » « Enfin, vous y tenez, n'est-ce pas ?» « Oui. Vous me permettez donc, Jeanne, de vous l'offrir comme présent de noces, après avoir remboursé le créancier auquel elle appartient aujourd'hui ? J'accepterai avec bonheur. Maintenant, dites-moi, à quand voulez-vous fixer notre mariage ?» Jeanne rougit beaucoup, baissa les yeux et répondit d'une voix à peine intelligible les mots suivants, que Raoul devina plutôt qu'il ne les entendit. « Je désire que ce soit à bientôt. » Le chevalier prit la main de Jeanne et la porta de nouveau à ses lèvres, ce qui augmenta la rougeur et l'embarras de la jeune fille. « Nous ne pouvons nous marier ici, » poursuivit Raoul. « Vous est-il égal, cher enfant, que notre union soit célébrée à Paris ?»«
Oui, »
répondit Jeanne. « D'un autre côté, » continua Monsieur de la Tremblay, « je ne veux point vous laisser seul dans cette maison pendant le temps nécessaire pour accomplir d'indispensables formalités. Consentirez-vous à me suivre ?»
« Oui, »
répondit la jeune fille pour la seconde fois. « Je n'ai pas besoin de vous répéter que vous êtes sacré pour moi et que jusqu'à ce que Dieu ait béni notre union par la main d'un de ses ministres, je respecterai ma femme comme si elle était ma sœur. »
« Raoul, » murmura Jeanne, « je crois en vous comme si vous étiez mon frère. »
« Nous partirons donc, » reprit le chevalier, « aussitôt que ma santé me le permettra, et je sens que ce sera bientôt. Rien ne guérit comme le bonheur. D'ici là, ne me quittez guère, car votre présence chérie, c'est la vie qui revient en moi. » L'entretien continua entre les deux jeunes gens,
Mais à partir de ce moment, ce ne fut qu'une causerie d'amour, douce et chaste, qu'il est inutile de rapporter ici. 10 jours après les événements qui remplissent les premiers chapitres de ce livre, la convalescence de Raoul touchait à son terme. Le petit Chastel était devenu la propriété de Jeanne. Une chaise de poste, attelée de 4 chevaux, attendait devant la porte et Jacques se pavanait sur le seuil. Raoul sortit avec sa fiancée, à laquelle il donnait la main pour monter dans le carrosse. Jacques s'installa sur le siège, le postillon fouetta ses chevaux et l'équipage du chevalier brûla le pavé de roi. Chapitre 20. L'hôtellerie du roi Salomon. Tandis que la chaise de poste de Raoul roulait rapidement à travers les campagnes de Bougival, de Reuil et de Neuilly, Jeanne, plus charmante que jamais, sous son costume de grand deuil, abandonnait aux mains de son fiancé sa main petite et blanche et savourait les joies indicibles de ce doux tête-à-tête. Raoul attachait sur elle de longs regards caressants, et il y avait entre les deux jeunes gens des instants de silence remplis d'une éloquence expressive. Le chevalier rompit un de ces silences en disant à sa compagne, qu'il écoutait parler avec une adoration muette, « Dites-moi, je vous prie, ma chère reine, êtes-vous superstitieuse ?» Notons en passant que Raoul appelait assez souvent Jeanne ma reine, à cause de la prodigieuse ressemblance de la jeune fille avec la reine de Saba. « Je ne le pense pas, » répondit Jeanne à la question de son fiancé. « Cependant, mon ami, expliquez-vous plus clairement, et je vous répondrai d'une façon plus positive. » « Voici ma pensée tout entière, » reprit Raoul. « Ajoutez-vous foi au présage. Croyez-vous au pressentiment. » « Non, » dit Jeanne. « Vous avez tort, » murmura le chevalier. « Vous y croyez donc, vous, mon ami ?»« Sans doute, et fermement. » Mais ma croyance diffère d'une façon absolue de celle du vulgaire. En quoi ? En cela que ma joie et ma confiance viennent de ce qui désole et épouvante les faibles. Je ne vous comprends pas. Je vais m'expliquer mieux. Ma conviction est que presque invariablement dans ce monde, le bien succède au mal et le bonheur est le fils du désespoir. Je souris donc aux funestes présages et plus le passé est sombre, plus j'ai foi dans l'avenir. « Cette persuasion est étrange, » interrompit la jeune fille. « Elle se base sur l'expérience, » continua Raoul, « et qui plus est sur mon expérience personnelle. Voulez-vous que je vous prouve, par ce qui nous est arrivé à nous-mêmes, ô ma reine bien-aimée, jusqu'à quel point ma croyance est bien fondée ?»« Oui, » répondit Jeanne, « prouvez si vous voulez, ou plutôt si vous pouvez, » ajouta-t-elle avec un sourire. « Écoutez-moi donc. » Ai-je besoin de vous affirmer que mon attention est profonde ? Vous vous souvenez de la manière dont je suis arrivée chez vous ? Certes, la nuit était sombre, l'ouragan mugissait, les eaux gonflées de la Seine venaient d'engloutir mon malheureux postillon au moment où on me retira presque mourant de ma voiture brisée. Par malheur, tout cela est vrai. Ou je me trompe étrangement, ou c'était là de tristes augures. Notre amour allait naître sous les auspices de la mort et de la destruction. « Raoul, vous m'épouvantez !» s'écria Jeanne, dont le cœur commençait à grossir. « Je veux vous rassurer, au contraire !» répliqua le chevalier. Et il continua. « C'est sous l'empire d'un délire fiévreux que j'ai vu pour la première fois votre image. La mort planait au-dessus de ma tête au moment où vos traits si doux sont entrés dans mon cœur pour s'y graver à jamais. » La mort était sous votre toit quand le secret de mon amour s'est échappé de mes lèvres. Le De Profundis retentissait encore autour du cercueil de votre mère, quand je vous ai dit que je vous aimais. « Raoul, Raoul, j'ai peur !» répéta de nouveau la jeune fille. « Oh, pourquoi me rappelez-vous tout cela ?»« Pour que vous en arriviez, ma bien-aimée, à croire, ainsi que je le crois moi-même, que l'astre radieux de notre bonheur brillera d'un éclat d'autant plus vif qu'il s'est levé plus pâle. » au milieu de funèbres vapeurs. Je l'espère comme vous, mon ami, mais vos paroles me font mal. Pourquoi donc? Je me trouvais heureuse de savoir que vous m'aimiez et de sentir que je vous aimais. Je n'avais jamais songé à ce berceau fatal dans lequel, ainsi que vous me le disiez tout à l'heure, a grandi notre amour,
et j'aurais voulu n'y songer jamais. « Enfant, » reprit Raoul d'un ton de compassion indulgente et affectueuse. « Allons, plus de courage. Mettez votre âme au niveau de la mienne et partagez une croyance qui ne m'a jamais trompée. »«
Je tâcherai, » murmura la jeune fille.
Mais les sophismes de Raoul avaient mis autour d'elle comme un manteau de glace. Son cœur était serré. Une angoisse indéfinissable lui faisait voir l'avenir à travers un crêpe sombre. Le reste du voyage se ressentit de cette impression que Jeanne cherchait vainement à combattre. Enfin, le carrosse s'arrêta. On touchait à la barrière de Paris. Jacques descendit de son siège et vint à la portière. « Où va monsieur le chevalier ? » demanda-t-il. « Rue du Cherche-Midi, à l'hôtellerie du roi Salomon, » répondit Raoul. Puis, quand la voiture se fut remise en route, il ajouta avec un sourire. « N'est-ce point là un rapprochement bizarre, ma chère Jeanne ? Le premier toit sous lequel la reine Balkis va se reposer à Paris est l'hôtellerie du roi Salomon. » « En effet, » dit la jeune femme. « Dites-moi, » continua Raoul, « êtes-vous bien sûr que le principal personnage de la tapisserie de la salle basse n'ait pas été jadis le portrait d'un de vos ancêtres ? Ceci pourrait expliquer en quelque sorte votre prodigieuse ressemblance avec ce personnage. » « Je suis sûre du contraire, » répliqua Jeanne, « car la tapisserie, ainsi que tout le mobilier du petit Chastel, vient de l'héritage paternel, et mes traits reproduisent ceux de ma pauvre mère. » « Alors, » reprit Monsieur de la Tremblay, « le hasard a tout fait, mais le hasard est un grand maître, et je ne m'étonne que d'une chose, c'est de l'immense talent de l'artiste inconnu qui avait su deviner un visage aussi céleste que le vôtre. » Jeanne sourit à ce compliment, mais ne répondit pas. Nous savons déjà que malgré elle, elle était triste et soucieuse. Le carrosse s'arrêta de nouveau. On était arrivé rue du Cherche-Midi et devant l'hôtellerie désignée par Raoul. Cette hôtellerie, vieille maison de peu d'apparence, avait conservé le pignon sur rue dont s'enorgueillissaient les demeures bourgeoises d'autrefois. Son étroite façade était noircie et gercée par le temps, comme le visage d'une centenaire. Au-dessus de la porte d'entrée, une gigantesque enseigne en tôle était attachée à un lourd madrier par des crampons de fer. Cette enseigne se balançait au moindre vent avec un grand cliquetis de ferraille. Le pinceau naïf d'un artiste, dont le nom ne s'était pas conservé, avait tracé sur la plaque de tôle l'image d'un homme de haute taille vêtu d'une longue robe blanche lamée d'or. Cet homme, coiffé d'une sorte de turban, tenait un sceptre de la main droite et semblait commander à une légion d'ouvriers microscopiques qui construisaient sous ses ordres un monument de forme étrange. L'inscription suivante, tracée en belles lettres, mi-partie or et rouge, expliquait la pensée du peintre. « Au grand roi Salomon. » Le bâtiment singulier qui formait le fond du tableau était le temple de Jérusalem. Chapitre 21 Le logis secret. La porte de l'hôtellerie tourna sur ses gonds et le carrosse, après avoir passé sous une voûte, entra dans une cour intérieure qu'entouraient des écuries assez vastes pour contenir une cinquantaine de chevaux. Jacques ouvrit la portière. Raoul descendit le premier, puis prenant Jeanne dans ses bras, il la posa sur le pavé. À ce moment, un homme d'une taille un peu au-dessus de la moyenne et d'une maigreur phénoménale s'approcha vivement des nouveaux venus. Cet homme, qui semblait avoir 70 ans, portait une culotte courte de ratine noire, entièrement serrée aux genoux par des boucles de cuivre sur des bas chinés à côtes, dans lesquels ballottaient ses maigres mollets. Une houppelande de drap gris et une sorte de cape en velours noir, destinée à abriter son crâne chauve, complétait un costume tout à fait de fantaisie, comme on le voit. La figure de ce petit vieillard était sournoise et astucieuse, et sa physionomie offrait au plus haut point le type judaïque. C'était le propriétaire de l'hôtellerie du roi Salomon. On le disait riche, mais avare. Son véritable nom était Samuel Vertami, mais généralement dans le quartier, on l'appelait le père aux écus. Samuel, avons-nous dit, s'approcha de Raoul et de Jeanne. Aussitôt qu'il eut reconnu le chevalier, il se courba presque jusqu'à terre, d'une façon qui faisait le plus grand honneur à la flexibilité de son échine dorsale. Il se débarrassa de la cape de velours qui couvrait sa tête et il marmotta entre ses dents les assurances cérémonieuses de son humble respect et de son profond dévouement. Raoul l'interrompit. « c'est bien, Samuel, » lui dit-il. « Tout est-il en bon ordre ?»«
Oui, monsieur le chevalier, comme toujours, » répondit le vieillard.
« Alors, nous pouvons monter ?»«
Parfaitement, et quoique monsieur le chevalier connaisse bien le chemin, je vais avoir l'honneur de le conduire. Lui et madame ?»
Le vieux Samuel s'interrompit. Raoul, qui devina une interrogation dans le sens suspendu de la dernière phrase du juif, et qui vit sur le visage de Jeanne un commencement d'embarras, se hâta de dire « Ma femme !»«
Lui et madame de la Tremblay, » continua Samuel après s'être incliné de nouveau. Puis il marcha en avant. Le chevalier et Jeanne le suivirent. Tous les trois arrivèrent au deuxième étage, dans cette pièce dont Raoul avait parlé à Jacques quelques semaines auparavant et qui se nommait la chambre des mages. Autour de cette chambre se voyaient les larges armoires à panneaux gris qui renfermaient une si grande variété de costumes, et dans l'un des angles se trouvait le coffre de fer, peint en bois et scellé au plancher. Nous savons déjà que cette pièce était absolument nue et qu'à l'exception de 3 ou 4 chaises grossières, elle ne renfermait aucun meuble. Aussitôt que Jeanne et Raoul eurent dépassé le seuil, Samuel les salua profondément et se retira en fermant la porte derrière lui. La jeune fille promena autour d'elle un regard étonné.
« Que pensez-vous de ce gîte ?» lui demanda Raoul en souriant.
« Que voulez-vous que j'en pense ? J'attends.
Vous ne croyez pas que mon projet soit de vous installer ici ?»«
Non, » répliqua-t-elle en souriant à son tour, « à moins que votre projet ne soit aussi de me donner ce coffre pour lit. »
« Regardez, » dit le chevalier. Il s'approcha de la boiserie du fond de la chambre, formée comme dans les parties latérales par les panneaux de l'armoire. Dans l'un des panneaux se trouvait un bouton de métal à peu près invisible, car une couche de couleur grise le recouvrait, ainsi que le reste des boiseries. Raoul toucha ce bouton. Il se fit dans la muraille une sorte de craquement, et le panneau tourna sur lui-même, démasquant un couloir étroit et sombre. Jeanne ne put retenir un cri de surprise. Raoul lui prit la main. « N'ayez pas peur, » lui dit-il, « et venez. »«
Peur ?» répondit la jeune fille. « Auprès de vous, est-ce possible ?»
Le couloir dans lequel ils s'engagèrent ensemble avait si peu de largeur qu'on y pouvait passer deux de front. Raoul marchait le premier, tenant toujours la main de Jeanne. L'obscurité était profonde. Ils firent ainsi une 20aine de pas environ, puis le chevalier s'arrêta. Un second craquement retentit, une nappe de lumière éblouissante vint frapper Jeanne au visage et la contraignit de fermer pendant une seconde ses yeux endoloris par le passage subit des ténèbres à une aussi vive clarté. Les jeunes gens n'étaient plus dans l'hôtellerie du roi Salomon. Une issue secrète, pratiquée dans un mur prodigieusement épais, les avait conduits dans une maison contiguë. Quand les paupières de Jeanne se soulevèrent de nouveau, elle resta stupéfaite en face du spectacle qui frappa ses regards. Elle se trouvait dans une pièce en forme de rotonde, décorée dans le style oriental, avec un luxe qui pouvait rivaliser avec celui de l'Alhambra du temps des rois morts. Un tapis turc, aussi doux que la toison des jeunes agneaux, étalait sur le parquet ses vives couleurs et ses arabesques brillantes. Des divans circulaires entouraient cette pièce et la pourpre, l'or et l'azur se mariaient dans la trame de l'étoffe qui les recouvrait. Tout le reste était à l'avenant. On avait épargné, pour ce chef-d'œuvre d'ornementation, ni les marbres les plus rares, ni l'argent précieusement ciselé.
« Que c'est beau !» s'écria Jeanne.
« Vous n'avez pas tout vu, » dit Raoul. Il souleva une lourde portière de lampas brochée d'or et il introduisit Jeanne dans une seconde pièce. Celle-ci, d'un goût sombre et sévère, était entièrement boisée en ébène. Une natte indienne d'une incomparable finesse tenait lieu de tapis. Deux bahuts immenses étaient chargés de vaisselle plate, d'argenterie d'un travail exquis et de porcelaine de Saxe et de Sèvres. Des sièges recouverts en cuir de cordoue, gaufrés et dorés, entouraient une table couverte de viande froide, de pâtisseries, de fruits d'une beauté surprenante et de flacons en verre de bohème remplis de vin dont les uns avaient l'éclat ardent de la topaze brûlée, d'autres la transparence du rubis pâle et d'autres enfin la nuance vigoureuse de la pourpre royale. À cette table, si bien servie, il ne manquait que des convives. « Ce n'est pas tout encore, » dit Raoul, et il conduisit sa compagne dans une chambre à coucher très petite pour laquelle l'ordonnateur de ses merveilles avait inventé ce style coquet et adorablement prétentieux qui devait, quelques années plus tard, recevoir au baptême le nom de Pompadour. Les murs de cette pièce étaient tendus en satin d'un gris presque blanc, sur lequel on avait brodé à la main de gros bouquets de roses et de chèvrefeuilles. Le tapis était en hermine. Les flots neigeux de la mousseline des Indes se drapaient autour d'un lit en bois de rose, dans les panneaux duquel s'encadraient des figurines de porcelaine de Sèvres. Nous devons renoncer à donner une idée, même imparfaite, des mille futilités somptueuses qui envahissaient cette chambre à coucher, qu'on eût pu croire destinée à la favorite d'un roi. Partout des émaux et des terres cuites de Bernard de Palissy, des ciselures de Benvenuto, des statuettes d'ivoire et d'or, des potiches japonaises, des magots chinois et des groupes de Saxe. Une seule chose étonnait le regard par son étrangeté. C'était de rencontrer, à côté de ces élégances féminines, un véritable arsenal d'armes offensives et défensives. Derrière ces rideaux nuageux dont nous parlions tout à l'heure, se voyait suspendu, sur la tenture de satin brodé, tout un assortiment de pistolets et de poignards, collection complète s'il en fut, à commencer par le style espagnol, pour arriver au yatagan turc, en passant par le kandjar indien. Raoul ramena Jeanne dans la salle à manger. « Chère reine, lui dit-il, vous devez avoir faim. Voyez, ces fruits sont presque dignes de vous. Où sommes-nous donc ? Demanda la jeune fille. « Il y a un mois, répondit Raoul, j'aurais dit « Nous sommes chez moi ». Aujourd'hui, je dois dire « Oh, ma belle reine, nous sommes chez vous ». « Quoi ? Tout ceci vous appartient ? Oui, puisque tout ici est à vous. Mais pourquoi cette entrée mystérieuse et secrète ? Pour des motifs que je vous expliquerai plus tard et que vous comprendrez. Maintenant, dites-moi, chère Jeanne, vous conviendra-t-il d'occuper cet appartement, seul avec une femme de chambre que je vais me mettre en mesure de vous procurer, jusqu'au jour de notre mariage, qui ne tardera guère ? Vous savez bien, mon ami, répondit Jeanne, que tout ce que vous voulez, je le veux. Raoul, aussitôt qu'il eut installé la jeune fille dans l'appartement mystérieux que nous venons de décrire, reprit le chemin par lequel il était venu, traversa de nouveau la muraille, passa par la chambre des mages, et après une conférence de quelques instants avec Maître Samuel, quitta l'hôtellerie du roi Salomon.